Qui est là ? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit :
C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie.
Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix :
Tire la chevillette et la bobinette, Chéra.
Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, en la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit, sous la couverture :
Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi.
Quand on parle du loup.
Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de la série radiophonique Quand on parle du loup. Elle a été imaginée et conçue par notre classe de première STAV du lycée agricole Georges Pompidou d'Aurillac. Dans ce nouvel épisode, nous plongerons dans l'histoire avec un grand H, mais aussi dans les grandes légendes et les mythes autour du loup. Depuis la nuit des temps, le loup a nourri les imaginaires, suscitant aussi bien l'admiration, la peur que la fascination.
Quand on parle du loup.
Dans la Rome antique, la louve a une image très positive. Elle est représentée comme la mère protectrice qui allaita Rémus et Romulus. La légende raconte que la petite fille du roi Amitor, Rhea Silvia, fut condamnée à rester vierge par son oncle Amulius, lorsqu'il accéda au trône de la ville d'Albe, dont il avait dépossédé son propre frère Numitor, père de Rhea Silvia. Elle donne néanmoins naissance à des jumeaux, Rémus et Romulus, engendrés avec Mars, le dieu de la guerre. À leur naissance, pour être sauvés de la colère d'Amulius, ils furent jetés dans le Tibre, dans un panier. La louve Luperca s'est approchée du fleuve pour s'abreuver, a recueilli les jumeaux et les a allaités, eux qui allaient fonder Rome quelques années plus tard. Ainsi, la louve est devenue l'emblème de Rome. Elle le resta pendant les JO de 1960 et demeure l'animal emblématique du blason du club l'AS Roma. Maintenant, gare au grand méchant loup que symbolise parfaitement le mythe du loup-garou. Le mythe de cette bête fantastique, moitié homme, moitié loup, trouve ses origines dans les mythologies de l'Égypte ancienne, mais aussi de la Grèce antique. Ainsi, selon la légende, le dieu grec Zeus lança une malédiction au roi d'Arcadie Lycaon, qui le transforma en loup-garou. Le mythe du loup-garou se retrouve aussi dans le folklore de plusieurs pays comme la Finlande ou l'Écosse. Le Wilver est même l'un des rares loups-garous non agressifs dans les pays de l'Europe de l'Est. À trop vouloir crier au loup, on finit par se faire dévorer par la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan était le surnom attribué à un ou plusieurs canidés à l'origine d'une série d'attaques sur des humains entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767 en France. Ces attaques mortelles ont eu lieu dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan, actuellement le département de la Lozère, dans le sud de l'Auvergne, le nord du Vivarais, le Rouergue et le sud du Velay. La bête du Gévaudan a mobilisé de nombreuses troupes royales. Cette histoire a donné naissance à des rumeurs, des fantasmes, des croyances sur la nature du loup, un animal sorcier, tueur, mais à écouter l'historien Michel Pastoureau, auteur du livre « Le loup, une histoire culturelle » aux éditions du Seuil, sorti en 2018. La symbolique du loup est extrêmement riche et multiple, en particulier pendant la période du Moyen-Âge. Il est l'animal qui voit la nuit. Pour le christianisme médiéval, c'est un grand péché que de voir la nuit. Ce qui peut certainement expliquer pourquoi le loup a souvent été diabolisé en France par la religion. C'est aussi un animal réputé pour sa faim, pour son côté vorace et qui inspire plus ou moins la peur en fonction de la rudesse du climat, de la rarification du gibier qui conduisent aussi les loups à se rapprocher des villes. Le loup est souvent considéré comme très courageux et très vaillant. Mais le loup, c'est aussi un personnage de roman et de conte, comme dans le roman de Renard, où il est l'animal ridicule dont tout le monde se moque. Autant de mythes, d'histoires et de symboliques qui influencent forcément le regard que nous posons sur le loup aujourd'hui, à l'heure de son retour en France. Pour cet épisode, nous avons utilisé les sites internet visitonrome.com, Wikipédia, wikidia.org, cosmovision.com, pts.ch, ainsi que des extraits d'interviews de Michel Pastoureau dans la Grande Librairie, l'émission littéraire de France Télévisions.
Quand on parle du loup.
Retrouvons maintenant, pour compléter ces informations sur le loup, Monsieur Antoine Brimboeuf, champion de France de conduite de chiens de troupeau, ovin et bovin, responsable de troupeau à la bergerie de Rambouillet, et lui-même éleveur avec sa compagne dans l'Indre, interrogé par des élèves de notre classe.
Oui, ben moi, mes parents étaient agriculteurs, donc j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Parce que, bon, voilà, mon premier métier, ça a été... pendant que je faisais mes études, je faisais du contrôle laitier en bovin. Après, mon premier métier, ça a été berger. Et puis après, je me suis occupé de la ferme de Rambouillet, où il y a un peu tous les élevages. Il y avait de la viticulture, des vaches, des moutons... etc., des chevaux. Donc voilà, j'ai toujours été avec les animaux, donc je peux dire que j'ai une bonne expérience de l'élevage. Et actuellement, donc, avec ma compagne, on élève 600 brebis. Et voilà, et j'ai un petit peu en corollaire de tout ça. Dès que j'ai été embauché comme berger, j'ai pris un premier chien de troupeau, et donc ça c'est devenu une passion, et ça m'a pas quitté depuis 30 ans. Je pense qu'il a fait évoluer le métier de berger, il a fait évoluer les conditions de vie des bergers. Et voilà, là-dessus je suis pas le mieux placé pour en parler, parce que je l'ai pas vécu au quotidien. Là, il faudrait interviewer des gens qui ont connu les pratiques, la pratique pastorale avant le loup et après le loup. Donc je ne veux pas parler à leur place. Mais j'imagine que vivre avec le loup, c'est faire un bon social de plusieurs dizaines d'années en arrière. Voilà. Ça veut dire plus pouvoir quitter son troupeau, ça veut dire c'est retrouver des conditions de vie que peu de catégories socio-professionnelles accepteraient. Parce que maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut du week-end, tout le monde veut des vacances, y compris dans le monde agricole, hein, et c'est tant mieux, hein, y compris chez les éleveurs, hein, qui ont des services de remplacement, etc. Ils sont aidés pour partir en vacances. Voilà, donc tout ça, ça évolue, c'est une bonne chose. Mais un berger qui est sur une estive, il ne peut plus dire, oh, bah, tiens, les brebis, elles sont au calme sur un quartier peinard, je vais descendre un week-end... je ne sais pas, à Briançon, à Albertville ou à Marseille pour faire un peu la fête. Quoi. Parce que je sais que les brebis, elles sont là, elles ne vont pas bouger. Ça, c'est fini. Donc, en cela, je pense que la présence du loup ou des grands prédateurs a modifié les conditions de vie des bergers. Le berger, quand il est en place sur des zones où il y a de la prédation, il est plus mobilisé, hein. il est beaucoup plus impliqué, quoi. Par contre, y a des endroits où la pression de prédation est tellement forte que les groupements pastoraux, c'est-à-dire les éleveurs, ils se disent bah non, on n'y va plus, quoi. Il y a des estifs qui, notamment dans les Alpes, où c'est tellement chaud que ça ne sera plus pâturé par des herbivores, par des animaux rentes. Voilà. Et là, dans ce cadre-là, ça ne va pas vers plus de débouchés pour le métier de berger. Voilà. Bon, alors, est-ce que là aussi, c'est peut-être compensé par des estives ou un endroit où il n'y avait que besoin d'une personne, on en met deux. Voilà, ça, il faudrait voir les statistiques au niveau des chambres d'agriculture, des départements où il y a des estives et de la prédation.
Et du coup, le chien de défense ne suffit pas ?
Si le chien de défense... Ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Quand il y a une meute installée, une meute de loups installée, pas, c'est pas un chien qui peut suffire. Hein. Les loups sont des animaux très bien organisés, très intelligents, qui sont capables de mettre en déroute des équipes de chiens de troupeau. Hein. Ils attaquent par plusieurs endroits du troupeau. Il y a des phénomènes de diversion, etc. Donc voilà. On peut pas dire que ça certainement que ça aide. S'il y a des troupeaux qui sont protégés et en proximité des troupeaux qui sont pas protégés, ben le loup il est pas bête, hein, il va les taper là où c'est pas protégé. Dans une région où il y a une présence importante de prédateurs et où tous les troupeaux sont protégés, le prédateur fera quand même qu'il mange et il aura toujours plus facile à taper dans des animaux de rente, notamment des moutons, que d'aller courir des chamois ou des moutins sur les cimes rocheuses.
Texte d'introduction joué par Martin Hubert. Extrait du Petit Chaperon Vert de Camille.
Quand on parle du loup.